Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce présent ce midi avec un petit problème informatique pour débuter cette émission. Donc veuillez nous excuser et moi je vais vous proposer tout de suite de retrouver l'émission que nous avons chaque semaine avec David Torchala pour l'information religieuse qui concerne le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Et c'est une émission un peu spéciale aujourd'hui puisque nous allons retrouver une émission qui est proposée avec le recteur qui revient il y a quelques jours d'une visite à Rome et il y est allé avec le président de la République. Je vous propose donc d'écouter tout de suite cette interview et puis ça nous laissera sûrement le temps de réparer notre souci informatique. Veuillez bien sûr nous en excuser. On retrouve tout de suite David Torchala avec le recteur du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes.
Le sanctuaire de Lourdes était présent à Rome le 10 avril 2026 au cœur d'un moment diplomatique et spirituel important, la rencontre entre le président de la République Emmanuel Macron et le pape Léon XIV. Parmi la délégation, une présence a été remarquée, celle du recteur du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, une participation qui interroge alors que la question d'une possible venue du pape en France et à Lourdes en septembre prochain est dans tous les esprits. Mais que signifie concrètement ce déplacement? Faut-il y voir un signe? Pour en parler, nous accueillons le père Michel Dauban. Bonjour père.
Bonjour David.
Vous êtes le recteur du sanctuaire et vous avez fait ce déplacement. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment tout cela a été organisé?
Eh bien, ce fut pour moi un très très grand privilège de faire partie de cette délégation. Je ne m'attendais pas du tout à en faire partie. J'ai reçu un email du protocole de l'Élysée, entre parenthèses, le 1er avril, dont j'ai su après avec les membres de la délégation que quasiment tout le monde s'est demandé si c'était un poisson d'avril. Et l'une d'entre nous a d'ailleurs dit qu'elle voulait se rendre physiquement à l'Élysée pour avoir le papier dans la main pour vraiment y croire. Bon, j'y ai cru et de fait donc j'ai eu la joie, oui, l'honneur de participer à ce voyage avec une vingtaine de personnes qui ont entouré le président de la République pour se rendre effectivement au Vatican pour rencontrer sa sainteté le pape Léon XIV. Voilà, ce fut un moment à la fois de rencontre et de dialogue entre les membres de la délégation et puis d'événements avec la visite de la basilique Saint-Pierre, avec le déjeuner avec le président et le secrétaire d'État cardinal Parolin, en l'honneur duquel le déjeuner à la Villa Bonaparte, à l'ambassade de France, était organisé et puis un certain nombre de visites.
Qui étaient les personnes qui ont composé cette délégation autour du président? Est-ce que c'est un secret? Est-ce qu'on peut le dire?
Alors, ce fut un grand secret avant d'entrer dans l'avion présidentiel. Le Falcon qui était stationné à la base aérienne de Vélizy-Villacoublay. Et de fait, ensuite, voilà, le secret a été dévoilé. J'aurais voulu tout simplement m'organiser par rapport au voyage, éventuellement faire du covoiturage pour me rendre à Villacoublay. Et en fait, non, on m'a dit, c'est pas possible, c'est le secret, vous ne saurez pas. Donc, je m'y suis rendu. Et c'est là, donc, que j'ai rencontré, l'évêque du diocèse des armées, Monseigneur de Romanet, faisait partie de la délégation, c'était le seul évêque. Il y avait Monseigneur Hugues de Voilemont, qui est l'actuel directeur de l'œuvre d'Orient. Il y avait des parlementaires, un député, un sénateur. Il y avait Monsieur Jean-Marc Sauvé, qui est le président de la Fondation d'Auteuil. Donc la préoccupation de la jeunesse, de l'éducation, du lien social dans notre société. Il y avait le président des guides et scouts de France également. Il y avait alors la dimension internationale avec Sœur Mariam, une religieuse libanaise qui a beaucoup marqué la délégation et qui a marqué aussi le Saint-Père, puisque elle avait été invitée du fait de la préoccupation actuelle concernant le Liban pour évoquer la situation totalement dramatique que traverse ce pays actuellement. Il faut dire que dans cette rencontre qui fut entre chefs d'État, la diplomatie a occupé une place importante et de fait le Liban en danger a été vraiment en tête des sujets, en tête des conversations. Je pourrais citer également le président du Secours catholique, Didier Durier, Le directeur du collège des Bernardins, Laurent Laudette, François Mourinière, qui est le président du directoire de Bayard, directeur de La Croix, Madame Régnier, qui représentait Saint-Égidio, cette entité si importante et auquel le président de la République est attaché aussi. Voilà aussi pour dire l'importance à la fois de l'œuvre en faveur de la paix, en faveur du lien entre les hommes, pour la fraternité. Et puis, il y avait également, alors, deux personnes qui représentaient plus à la fois la culture, avec Sœur Albertine, notre religieuse youtubeuse. Et puis Benjamin Pouzin, qui est membre du groupe Glorious, que tous les jeunes catholiques de France et d'ailleurs connaissent, qui était aussi tout surpris de faire partie de cette délégation. Autrement dit, voilà, c'est aussi quels sont les éléments qui aujourd'hui sont dynamisants pour l'Église de France et pour porter aussi tous ces catéchumènes, tous ces jeunes qui se tournent vers la foi. Et puis, je n'oublie pas non plus Guillaume Tabar, journaliste, qui faisait partie de cette délégation officielle. J'espère que je n'oublie personne.
Mais on imagine bien que personne n'est choisi au hasard pour composer cette délégation. Comment personnellement vous avez vécu ce déplacement? Comment avez-vous pu représenter Lourdes parmi les membres de la délégation et puis au plus haut niveau de l'État?
Alors, comment la délégation a été composée et pourquoi j'en ai fait partie, je n'en sais strictement rien. Et je n'ai pas eu d'éléments d'explication. Ce qui est sûr, c'est que j'avais déjà rencontré des conseillers de l'Élysée il y a 2 ans pour évoquer les problématiques du sanctuaire, avec la question des investissements, du défi qui se pose au sanctuaire, qui est un sanctuaire national, à renommée internationale, avec une fréquentation internationale. Donc j'allais dire, c'est pas rien. Et puis l'année dernière, j'avais eu l'honneur aussi de rencontrer le président de la République lors de son passage à Lourdes, au château fort, dans le cadre de ce point sur ce plan à venir Lourdes qui avait été négocié lors du gouvernement de Jean Castex tout de suite après le Covid. Et il se trouve aussi, alors voilà, plusieurs éléments qui ont peut-être joué, je ne sais pas. Au mois de février, début février, je me suis rendu également à Rome à l'invitation du dicaster sur le développement intégral, pour avoir l'honneur, là aussi, de présenter le message du Saint-Père à l'occasion de la Journée mondiale du malade, qui s'est déroulée la 34e, le 11 février, jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes. Et donc, avec le cardinal qui préside ce dicaster, j'ai eu l'honneur de dire quelques mots pour dire ô combien ce message résonnait dans le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Alors voilà, tout un tas d'éléments qui font que, sûrement, le sanctuaire de Lourdes a de l'importance aux yeux de tous, et donc y compris aux yeux du Saint-Père. Ça, j'en avais déjà la conviction, puisque je l'avais déjà rencontré l'année dernière.
Oui, avec, c'est ça, le 1er juillet 2025, avec Monseigneur Jean-Marc Mika.
Alors, Monseigneur Mika, oui, à la fin juin, nous l'avions rencontré lors d'une audience privée.
Quelques jours après sa nomination seulement, en fait.
Exactement, hein. Oui, deux mois après.
C'était l'occasion de l'inviter officiellement à Lourdes.
Ah, ben, je pense qu'il a été invité à plusieurs reprises, par oral et également par écrit. Alors, je pense que le Saint-Père reçoit un nombre d'invitations assez impressionnant. Donc, nous en avons fait partie, bien
Père
sûr.
Père Michel Dauban, l'hypothèse d'une venue du pape à Lourdes, est-ce qu'elle se confirme?
Alors, l'hypothèse de ce voyage du Saint-Père à Lourdes, elle a été évoquée, la question a été posée au président de la République, puisque, une fois de plus, l'ensemble des membres de la délégation n'ont pas fait partie de l'audience avec le Saint-Père. L'audience avec le Saint-Père s'est faite uniquement par le président et son épouse, le ministre des Affaires étrangères et un certain nombre de personnes très très rapprochées, dont d'ailleurs la religieuse sœur Mariam, là aussi pour redire l'importance du Liban aujourd'hui dans les préoccupations des différents chefs d'État. De fait, alors je ne sais pas ce qui a été dit dans cette audience qui reste privée, mais ensuite dans le déjeuner à la Villa Bonaparte, où là, le président a été interrogé, plusieurs sujets ont été évoqués. La question de son voyage à Lourdes a été posée, et de fait, il a dit que il avait invité le Saint-Père, que le sujet était sur la table, que ce voyage était en préparation, mais que encore aucune décision n'était prise. Mais c'est l'évidence même qu'il va venir à Lourdes, tellement Lourdes est important, et tellement Lourdes est important au cœur du Saint-Père aussi.
C'est vrai, parce que si cette hypothèse venait à se confirmer, ça serait vraiment une nouvelle page de l'histoire qui s'est créée à Lourdes, de recevoir un nouveau souverain pontife.
En tout cas, ce serait une grande joie, parce que il est attendu depuis longtemps. Le dernier pape, c'est Benoît XVI, qui est venu en 2008. Donc Jean-Paul II était venu à deux reprises. Donc le pape François, hélas, n'est pas venu. Donc c'est vrai qu'on l'attend impatiemment pour marquer une autre étape. Oui, dans la vie de notre sanctuaire, de l'histoire, je ne sais pas, mais oui, une étape très importante, assurément, pour Lourdes, pour son recteur et pour l'ensemble de la communauté d'accueil qui se consacre à l'accueil des pèlerins, parce que ça va être une grande joie pour tout le monde, mais aussi une très très forte mobilisation, y compris du directeur de la communication.
Et peut-être une dernière question, est-ce qu'il est bien nécessaire de prier pour le pape ?
Bien sûr qu'il est bien nécessaire de prier pour le pape. J'élargis même la question en disant qu'il est très important de prier pour l'ensemble des chefs d'État, parce que porter des responsabilités et surtout les plus hautes, je pense qu'on ne se rend jamais à quel point c'est difficile et c'est extrêmement compliqué. Et le tour de table d'ailleurs sur les différents foyers de violence et de guerre sur toute la planète lors de ce déjeuner avec le cardinal Parolin et le président en a été le témoin manifeste. Ensuite, par rapport au Saint-Père Léon XIV, bien sûr qu'il faut prier pour lui. Il insiste beaucoup sur la paix. On sait à quel point la paix est mise en difficulté actuellement dans le monde entier, et on sait hélas aussi à quel point son discours n'est pas suivi d'effet, et à quel point il faut propager ce message qu'il a délivré au balcon de la basilique Saint-Pierre dès le soir de son élection. La paix soit avec vous, que cette paix du Christ ressuscité soit adressée au monde entier. Si lui, successeur de Saint-Pierre, ne le dit pas de cette manière-là, qui le dira ? Donc il faut prier pour lui et relayer son message, et nous aussi prier pour la paix, et prier particulièrement pour la paix dans le sanctuaire de Lourdes, qui est aussi positionné véritablement comme un sanctuaire où la paix est un motif, une intention de prière particulièrement importante.
Merci Père Michel Dauban.
Je vous en prie.
À une prochaine fois.
Voilà, merci également à David Torchala pour cette interview. Alors encore mille excuses pour le petit souci informatique en début d'émission. Tout est rentré dans l'ordre je vous propose tout de suite de partir à la découverte d'une proposition qui sera faite le week-end prochain, quand la danse devient un moyen de sensibiliser à l'endométriose. Eh bien, c'est une proposition que nous fait une jeune fille. Ça se déroulera à la salle des fêtes de Vieil-Adour et on la retrouve pour qu'elle nous explique tout ça.
À Belmont-sur-Rance, 93.1.
Quand la danse devient un moyen de sensibiliser à l'endométriose, c'est une proposition qui va être faite samedi 25 avril. Et pour en parler, j'ai le grand plaisir d'accueillir Carla Boutry. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes toute une jeune femme et vous êtes déjà, malheureusement, atteinte par cette maladie, l'endométriose.
C'est ça, exactement.
Est-ce qu'on peut rappeler rapidement ce qu'est l'endométriose et après on parlera bien sûr de la soirée que vous organisez à titre personnel avec une amie à vous qui fait partie de la structure Fiesta Il Salsa.
Oui, bien sûr. Alors l'endométriose, c'est une maladie chronique gynécologique qui se manifeste par des cellules semblables à l'endomètre qui peut se trouver dans l'utérus ou alors qui se colle, si je puis dire, à des muqueuses sur les organes. Et donc après, ça peut provoquer divers symptômes comme des douleurs digestives, des douleurs pendant les règles, des problèmes digestifs, de la fatigue, etc. Et ça touche donc une femme sur 10. Et on dit souvent qu'il y a autant d'endométriose qu'il y a de femmes, en fait. Donc tous les symptômes sont très différents d'une femme à l'autre, même s'ils se ressemblent beaucoup, voilà.
C'est une maladie dont on ne parlait pas beaucoup et depuis quelques temps, effectivement, beaucoup d'opérations sont organisées pour cette association, enfin au moins les associations qui aident à la recherche pour l'endométriose.
C'est ça, oui, il y a beaucoup d'associations qui se sont développées pour sensibiliser le grand public et de plus en plus, il y a des recherches médicales et des avancées qui permettent un peu de mieux comprendre la maladie et d'accompagner les femmes qui en sont atteintes.
Et donc, vous allez organiser une grande journée, une grande campagne de sensibilisation et aussi pour récupérer des fonds pour une association qui s'appelle EndoFrance.
Oui, c'est ça. Donc, on va reverser tous les bénéfices de la journée de danse et de bien-être à cette association.
Alors, on va parler plus précisément de cette journée que vous proposez. On le rappelle, c'est le samedi 25 avril 2026 et c'est à la salle des fêtes de Vielle-Adour. Alors, pour les gens qui nous écoutent un peu dans la région, Vielle-Adour, c'est à côté d'où ?
C'est entre Tarbes et Bagnères.
Entre Tarbes et Bagnères de Bigorre.
C'est ça. Voilà, donc à 20 minutes de Tarbes, vers le sud.
Alors, qu'est-ce que vous nous avez proposé ? Qu'est-ce que vous allez proposer aux gens ? Puisqu'il y a une matinée plutôt dédiée au bien-être et une après-midi plutôt réservée à la danse.
C'est ça. Donc le matin, on a deux ateliers de bien-être. Donc c'est un atelier de bain sonore au bol tibétain et de la réflexologie.
Oui.
Et un cours de yoga. Donc ça, c'est pour la matinée. Et après, pour l'après-midi, on a du commercial, donc c'est une danse urbaine, on a du reggaeton. Et après, de la kizomba, de la salsa lady style et de la bachata.
Alors, est-ce que ce sont des démonstrations où on vient voir ces danses ou est-ce qu'il y aura, entre parenthèses, une initiation à ces danses ?
C'est vraiment un atelier où le participant pourra vraiment danser. Où on a un professeur qui va faire un cours, une petite chorégraphie et vous apprendre des choses. Et le soir, on a la petite soirée. Après, salsa, bachata, kizomba.
Voilà, après vous avez une grande soirée avec un DJ.
Oui.
Alors vous avez un dress code, cap sur le printemps. Bien sûr, c'est réservé à tout le monde. Et comment on peut réserver et qu'est-ce que vous avez proposé ? Est-ce qu'on peut manger ? Est-ce qu'il y aura de la restauration sur place ?
Oui, alors déjà pour réserver, on a le lien Hello Asso sur nos affiches, en QR code ou sur nos réseaux sociaux. Et bien sûr, il y a un food truck qui sera là, c'est Oma Ele, il sera sur place à partir de 19h30 jusqu'à 22h, donc un petit food truck. Et on propose aussi une buvette tout le long de la journée.
Et donc tous les bénéfices de cette journée seront reversés donc à EndoFrance, hein ?
C'est ça, et il y aura une bénévole qui tiendra un stand, donc une bénévole EndoFrance qui sera là toute la journée pour informer sur la maladie et voilà, sensibiliser et répondre aux questions, voilà.
On rappelle quand même qu'effectivement l'endométriose touche une femme sur 10. Hein.
Oui, c'est énorme.
c'est énorme comme vous dites. Donc les tarifs donc sont de 5 à 30 euros. Qu'est-ce qui coûte 5 et qu'est-ce qui coûte 30 ?
Alors on a donc les tarifs, le tarif d'un atelier, ça va être 10 euros. Et après, vous pouvez choisir trois ateliers ou deux. On a un pass le matin qui est à 15 euros. Donc, si vous voulez faire les deux ateliers bien-être, ça sera 15 euros. Après, le full pass danse, donc qui donne accès aux cinq ateliers, c'est 30 euros. Trois ateliers au choix, bien-être ou danse, n'importe, c'est 20 euros. Et la soirée est à 7 euros. Voilà, 5 euros, c'est le tarif pour ceux qui réservent minimum un atelier ou un full pass, etc. La soirée, elle sera à 5 euros pour eux. Voilà.
Alors vous, Carla Boutry, c'est la première fois que vous organisez un tel événement ?
De cette ampleur, oui, mais l'an dernier, j'avais déjà fait ça avec une association sur Pau, le même concept pour l'endométriose aussi. On avait récolté à peu près 400 euros. Mais là, cette année, c'est vraiment, voilà, ça prend de l'ampleur et voilà.
Vous avez quel âge ?
J'ai 22 ans.
22 ans et déjà, vous organisez ce genre de manifestation pour cette association EndoFrance. C'est difficile, quand on est jeune, d'organiser. Ça a été facile de réserver la salle, d'aller voir toutes ces personnes qui vont proposer tous ces ateliers ?
Alors j'ai de la chance d'avoir été très bien accompagnée, parce que j'ai contacté donc Delphine, notre collaboratrice, que je connais, avec qui j'ai appris la salsa il y a 5 ans à Pau, avec qui j'ai commencé la salsa. Et donc elle m'a mis en relation avec Fiesta y Salsa, l'association qui organise des soirées autour de Tarbes. Et donc voilà, on a fait ça vraiment à trois. On avait des contacts pour les professeurs, donc on les a appelés, on les a contactés. Après la salle, c'est la mairie de Vielle-Adour qui nous prête la salle pour cette soirée. Donc ça, c'était plus du côté de Fiesta y Salsa. Donc c'était vraiment une collaboration. Voilà, on a contacté qui on connaissait pour faire de cette journée le maximum et une belle journée.
Et bien voilà, si on veut participer à cette belle journée, comme vous le dites, et puis avoir aussi de l'information, puisqu'il y aura une représentante de l'association Endo-France qui restera toute la journée. Donc les programmes de la journée, 10h, 11h, donc il y aura les bains sonores avec de la réflexologie. De 11h15 à midi et quart, il y aura du yoga. Et il y a 15 places disponibles, donc ça c'est important. Ensuite, à 13h30 jusqu'à 14h30, cette danse commerciale, c'est ça ?
Oui, exactement.
Avec voilà, avec après un petit quart d'heure de pause. Après, ce sera le reggaeton de 14h45 à 15h45, du Kinzomba, c'est ça ?
De la Kizomba, oui.
Kizomba, voilà, de 16h à 17h. Et puis la salsa, Lady Steel, de 17h15 à 18h15. Et 18h30, 19h30, la bachata en couple avec Francesca. Francesca, c'est l'école de danse, hein, Francesca ?
Oui, ouais, oui, c'est voilà, une asso de danse à Tarbes.
Qui est absolument excellente. Et puis, le soir, voilà, une soirée DJ avec SBK, animée par DJ Lucho, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Et voilà, de 21h30 donc à 2h du matin. On veut participer, direction tout simplement la salle des fêtes de Vielle-Adour qui se trouve, vous l'avez dit, entre Tarbes et Bagnères-de-Bigorre. Et on le répète, bien sûr, tous les bénéfices de cette journée seront reversés donc à l'association Endo-France pour aussi que la recherche puisse avancer sur cette maladie qui maintenant n'est plus un tabou et on en parle de plus en plus et ça devient vraiment un enjeu de santé publique. Hein.
C'est ça, exactement.
Merci à vous, Carla Boutry, et merci aussi à votre partenaire Fiesta y Salsa qui à ce petit collectif qui organise cette soirée. Et puis j'espère que, on aura le plaisir de vous retrouver. Peut-être qu'on pourra faire le bilan de cette belle journée et puis surtout parler un peu plus longuement de cette maladie avec l'association Endo-France.
Oui, avec plaisir.
Merci beaucoup. Hein. On rappelle, direction donc le samedi 25 avril à Vielle-Adour, à partir donc du matin. On peut avoir les renseignements sur si on veut plus de renseignements ou si on n'a pas eu le temps de tout noter. Comment on peut faire pour entrer en contact avec vous ?
Eh bien, on peut sur mon Instagram ou sur le Facebook Fiesta y Salsa. Ils ont créé un événement où on peut avoir les informations.
Fiesta y Salsa, ou bien sur votre Facebook personnel. Donc, on tape tout simplement Carla Boutry, B-O-U-T-R-Y, c'est ça ?
C'est ça.
Voilà, merci beaucoup et bon succès
à vous.
Merci à vous. Au revoir.
C'est gentil, au revoir.
Présence dans la cité mariale, 96.
Une belle proposition. Tiens, on continue la musique avec le chanteur Kenji Chirac et Vianney pour cette chanson Le Feu sur Présence.
Amen. J'ai pas les mots pour éponger ta peine. J'ai que mes mains pour te compter la mienne. J'ai travaillé sans compter mes semaines. J'ai pas volé la vie que je t'apporte. J'ai pas voulu qu'elle étouffe la nôtre. J'ai tout fait pour que le nous l'emporte.
Je te savais simple, mais je te voyais seul. T'étais toute éteinte, pourtant si jeune. Oh pourquoi ? Dis-moi pourquoi. Alors j'ai dû ramer pour mieux te ramener. Au fond de mes yeux, j'ai allumé un feu. Oh pourquoi. Rien que pour toi.
Je te fais la promesse du meilleur de moi-même. Et que vienne l'averse, je protège les braises.
Je te fais la promesse. Les braises, le feu.
sea pa' mi deseo. No puedo mover las nubes, pero puedo ser tu pelaje cuando lo quieras pedirme.
Era solitaria, pensativa, yo te pensé fuerte y no entendía. ¿Por qué? Dime por qué. Toma mi corazón, toda mi canción, por cuando hará frío, ha hecho un fuego ardiente. Du meilleur de moi-même. Et que vienne l'averse, je protège les braises.
Je te fais la promesse d'une vie de lumière. Et que tombe la neige, je protège les braises. Le
de moi-même, et que vienne l'averse, je protège les braises. Je te fais la promesse d'une vie de lumière, et que tombe la neige, je protège les braises. Le feu.
Le chanteur Vianney avec Kenji Chirac avec Le Feu à l'instant sur Présence. Et tout de suite, on retrouve l'information à la mi-journée avec les élèves de l'école de journalisme. Bonjour.
Une bonne nouvelle pour les patients diabétiques du Sud-Aveyron. L'hôpital de Millau installe un nouveau matériel. Cet appareil s'appelle un rétinographe. Il prend des photos très précises du fond de l'œil. L'examen sera disponible dès la mi-mai. Il se fait rapidement et ne provoque aucune douleur. Les médecins détectent ainsi plus tôt la rétinopathie diabétique, une maladie qui abîme la vue si elle n'est pas soignée à temps. La préfecture du Lot a confirmé vendredi dernier que la teinte rougeâtre observée dans la rivière Célé près du site du Surgé ne provient d'aucune pollution. Les analyses montrent une forte présence naturelle de fer dans l'eau. Cette couleur vient de la bactérie dite ferrobactérie. Les experts ne détectent aucun métal lourd ni substance toxique. Les tests écotoxicologiques confirment une eau sans danger pour l'environnement. Le tribunal d'Auch condamne l'entreprise ATG Palm à 10 000 euros d'amende, dont 5 000 euros avec sursis pour complicité de maltraitance animale. Elle a organisé le transport de canards vers un élevage surchargé. La justice estime que le profit a été privilégié au bien-être animal. C'est une première en France car la société commerciale est condamnée non comme éleveur mais comme acteur de la chaîne de production. Jusqu'ici, la justice visait surtout les exploitations agricoles. Le secteur du bâtiment et des travaux publics traverse une crise dans les Hautes-Pyrénées. Les matériaux comme le plastique ou le bitume augmentent jusqu'à 30% à cause du prix du pétrole. Ces hausses coûtent beaucoup plus cher aux entreprises. Ainsi, cette situation met en péril la trésorerie des artisans, contraints de travailler avec des devis anciens et des marges d'environ 2%. La fédération du BTP 65 demande une plus grande transparence de la part des fournisseurs pour éviter l'arrêt des chantiers et maintenir l'activité. Capitaine de leur équipe, deux sœurs cadurciennes sont qualifiées pour les championnats de France d'échecs scolaires en juin prochain. Après avoir franchi les étapes départementales et régionales, Lisea Poissonnier, 13 ans, et Noélie, 11 ans, sont prêtes à faire rayonner Cahors sur l'échiquier national. Lisea, vice-championne d'Occitanie dans sa catégorie, vise désormais la victoire au niveau national, tout comme sa sœur. Après avoir conquis Aix-en-Provence et Colmar, la première Ronron Librairie de France débarque rue de la Bourse à Toulouse aujourd'hui. Entre romans, BD, livres jeunesse, des chats adoptés en refuge se baladent librement au sein de la librairie. Les fondateurs Solène Chavanne et Jean-Philippe Doux, deux anciens journalistes, y portent un objectif, encourager l'adoption des chats et sensibiliser à leur protection. Ils prévoient plusieurs autres ouvertures comme à Bordeaux ou Albi.
Voilà, l'information nous était présentée à l'instant par Jenny Tcheb de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. Et le retour de l'actualité, ce sera tout à l'heure à partir de 13h avec toute la rédaction française de Radio Vatican. Comme tous les lundis, on retrouve Mathias Terrier pour le magazine De Passage à Lourdes.
Présence
De Passage à Lourdes, proposé par Mathias Terrier.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons un voyage au pays des vertus. Alors c'est vrai que le titre de votre ouvrage, Père Jean-Yves Ducournau, atterrissant dans le contexte actuel, peut presque paraître provocateur. Voyage au pays des vertus, oh là là, un prêtre qui nous propose ce voyage-là. C'est le titre de votre dernier ouvrage, paru chez Salvator. Et nous allons peut-être, ensemble, essayer de mieux comprendre ce que ces vertus dont vous parlez, les sept, et d'autres encore...
Oui.
Puisque vous avez été aumônier militaire et vous parlez de vertu de l'uniforme. Nous verrons ce dont il s'agit. Eh bien, nous verrons comment ça peut être dans le monde actuel jouable de se replonger dans ces réalités. Trois vertus dites théologales, foi, espérance et charité. Et puis les vertus dites cardinales, c'est-à-dire la prudence, la tempérance, la justice et la force. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée, Père Jean-Yves Ducournau, d'écrire ce livre sur les vertus? Vous en aviez vous-même besoin?
Ah oui, ben je pense que c'est nécessaire de raviver la flamme de la vertu. Mais c'est vrai qu'auparavant, j'avais écrit un livre qui s'appelait « Voyage au pays de ton âme », qui était une lettre ouverte au lecteur pour lui dire qu'il avait, selon saint Augustin, un corps, un esprit et une âme. Et en fait, là, c'est un peu le tome 2, c'est l'habillage de l'âme avec ses vertus que j'appelle finalement des armes pour la vie. Parce que la vie est un combat et les vertus sont là aussi pour combattre toutes les désillusions menées par les vices.
Alors quand je vous dis un titre peut atterrir dans un contexte et paraître presque provocateur, lorsque on écoute certains commentateurs qui décrivent notre société actuelle, ils disent en gros des réflexes tribaux, identitaires, l'individualisme, l'égoïsme, œil pour œil, dent pour dent, parfois même. Et puis quand on regarde les faits divers, on peut être un peu effrayé. Les réflexes qu'il y a aussi en termes de délation, de pugilat même sur le web, sur les réseaux sociaux. Bref, on peut avoir une description assez apocalyptique de notre société actuelle. Et vous nous dites « Voyage au pays des vertus ».
Absolument.
Alors vous n'êtes pas un peu naïf, cher père?
Peut-être, mais je garde cette naïveté comme finalement une chose positive. Certes, vous avez raison de décrire ce monde tel qu'il est présenté souvent dans les médias et dans les réseaux sociaux comme un monde qui manque de respect, qui ne.
Il y a pas de prudence, il y a pas de tempérance.
Je crois que
la justice, parfois, elle se fait même médiatiquement.
Oui, mais c'est vrai qu'on parle souvent de choses vilaines dans le monde, mais on en oublie les choses bien. Et moi, je veux rappeler que ces choses bien, elles construisent le monde. Et qu'elles sont à la base de nos relations.
Et qu'elles sont vécues.
Et qu'elles sont vécues et que si elles ne sont pas assez vécues, elles peuvent être davantage vécues.
D'accord. Et c'est accessible à tout un chacun.
Oui, alors même si c'est une édition, je dirais, Salvator a plusieurs catalogues de philosophie, des catalogues ouverts un peu au grand public. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu demander à un ami qui s'appelle Éric Delassus, qui est philosophe, adepte de Spinoza, de faire la préface pour montrer que les vertus, ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux cathos bien-pensants. Tout un chacun doit vivre de ses vertus. C'est pour ça qu'il y a les vertus dont vous avez parlé, les vertus cardinales, mais il y a pas que ça, il y a d'autres vertus. Après, bon, il y a les vertus théologales effectivement qui sont plus orientées pour le croyant, pour le chrétien. mais je parle aussi de ces, vous l'avez souligné, les vertus de l'uniforme, parce que bon, c'est vrai que pendant près de 30 ans, j'ai été au sein de l'armée comme aumônier militaire, avec notamment la Légion étrangère, donc je parle un petit peu de toutes ces vertus, et je m'adresse à des personnes qui ne sont pas cathos. Quand je suis aumônier militaire, je m'adresse à tout le monde. J'ai affaire à des gens qui sont généreux. Donc on part d'une générosité de quelque chose et d'une base. Un jeune qui entre aujourd'hui à l'armée, il n'entre pas parce qu'il voit de la lumière dans un studio. Il entre parce qu'il a envie. Il a envie d'être, de servir. Voilà. Donc après, il faut purifier, il faut nettoyer un peu tout cela, toutes les scories de ce désir. Mais il y a à la base une générosité. Donc déjà, il y a une vertu. Voilà. Donc cette générosité, elle doit être travaillée et elle doit être finalement honorée. Et à partir de là, bon, on lui apprendra à vivre d'autres vertus liées à cette générosité. Donc cette générosité peut aller jusqu'au don de soi, jusqu'au sacrifice, etc. Et beaucoup d'autres vertus de ce sens, mais elles ne sont pas exclusivement liées aux vertus aux soldats qui portent des armes. J'élargis un peu le concept de l'uniforme. Hein, pour moi, les infirmiers ont un uniforme aussi. Ils n'ont pas d'armes. Ils ont l'arme de la bonté seulement, hein, l'arme de la disponibilité. Mais bon, ils sont aussi dépositaires de ces vertus parce qu'ils donnent aussi beaucoup de leur temps, beaucoup de leur vie auprès des malades. Et parfois, il y a un retour violent. Hein, et ils connaissent, on a eu des exemples, notamment pas loin d'ici, à Pau, d'une infirmière qui avait été assassinée. C'est pour ça que je les mets dans au même rang que les autres, parce que il y a une générosité qui est là aussi, et c'est pour ça que ces vertus sont, à mon avis, indispensables et nécessaires, et elles sont pour tous. Même celui qui se dit c'est pas pour moi ce livre, parce que les vertus tout de suite ça fait peur, parce que c'est un terme de philo peut-être, ça renvoie et pourtant c'est si simple. C'est si simple d'être généreux, c'est si simple d'être bienveillant, c'est si simple d'aider son prochain. Voilà. Et tout cela, ça fait partie finalement des vertus.
Donc à ces vertus de prudence, tempérance, justice et force, vous y ajoutez, vous, ce que j'appellerais presque des valeurs, des valeurs d'abnégation, de sens du service, de sens de l'honneur, tout ce que vous décrivez, oui, au fond, qui peuvent habiter bien des métiers, bien des missions et des fonctions dans notre société.
Oui, parce que bon, j'aime bien le mot valeur, mais je préfère le mot vertu parce que ça renvoie au latin virtus, qui veut dire une force, c'est-à-dire une force, donc un combat, quelque chose, une arme positive pour un combat. Et c'est vrai que lorsqu'il y a un combat, il y a un ennemi. Et j'en parle dans le livre en disant que s'il y a un ennemi, il faut le savoir le nommer.
Et l'ennemi, c'est le diviseur.
Voilà. Le diviseur dont les armes sont les vices. Donc, les gens sont plus ou moins conscients de cette présence du diviseur. Nous, dans le christianisme, on n'hésite pas
à nommer.
À le nommer. Le Christ le nomme. Le Christ le nomme, et chaque fois qu'il le nomme, finalement, il donne ses armes. Hein, le diviseur, Satan, le démon, etc. Tout cela, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ça veut dire qu'il y a des armes particulières pour chaque catégorie. Hein. Nommer le démon, c'est aussi avoir un pouvoir sur lui. Et donc, à partir de là, ce pouvoir sur lui nous est donné par le Christ, qui nous donne ses forces. Il s'est incarné en nous justement pour que nous soyons revêtus de sa gloire et donc de sa force.
Vous dites, Père Ducournau, que c'est accessible à tous. Alors comment on y accède? C'est la force de la volonté? C'est un travail sur soi? C'est une force intérieure? Alors, c'est la prière.
Tout cela, c'est valable, mais je pense qu'il y a aussi la force du voisin, c'est-à-dire le témoignage. Regardez quelqu'un qui est bienveillant, qui fait du bien, qui prend du temps pour les autres, ça marque. Et c'est pour ça que le témoin est important. même si il le fait d'une manière naturelle, mais c'est d'abord cela. Et ça, je pense que c'est la première façon de faire découvrir à l'autre qu'il peut faire la même chose, qu'il est vertueux. Nos exemples, l'Église nous donne des modèles, non pas pour les imiter vaille que vaille, mais parce qu'il trace une route. Voilà, les deux derniers canonisés, Frassati et Cotis, montrent que voilà, c'est dans la vie courante, le fait de ouvrir ses yeux sur le monde et ouvrir ses yeux sur ceux qui l'habitent et les plus pauvres, voilà, c'est un témoignage. Et ça peut nous aider. Ça peut nous aider. Donc après, tout cela, effectivement, ça meut la volonté. Ça fait travailler la volonté. Pourquoi je ne serais pas bon? Voilà. Pourquoi je serais mauvais alors que je peux être bon? D'autres sont bons. Pourquoi je ne prends pas le même chemin? Donc ça, c'est un peu la volonté dans ma liberté, dans mon libre arbitre. Le libre arbitre n'est libre que, justement, s'il s'oriente vers le bien. Sinon, il est enfermé. Le livre de Deutéronome nous parle de cela. Donc à partir de là, effectivement, ce libre arbitre, c'est de donner à sa volonté le bien.
Les modèles médiatiques actuels, ou en tout cas ceux qui sont mis en exergue par les réseaux sociaux, mais aussi par les algorithmes, l'intelligence artificielle, ce qu'on voudra, ce qui est poussé, c'est plutôt quand même la force, l'asservissement, la puissance, l'argent. Vous conviendrez que le combat paraît presque naïf.
Le combat toujours. Inégal. Non, il n'est pas naïf, mais inégal. Il a toujours existé. Saint-Paul lui-même décrit la foi comme un combat. Donc, ce n'est pas nouveau.
Oui.
Le disciple de Jésus se heurte sans cesse aux forces du mal. Et donc à partir de là, effectivement, il doit orienter sa vie en fonction du seul influenceur qui soit, c'est-à-dire le Christ. Les influenceurs, bon, il y en a qu'un pour nous, c'est le Christ. Donc et c'est celui-là. C'est celui-là qui est pour le chrétien, c'est celui-là qui est notre boussole, c'est celui-là qui est notre balise de lumière. Il n'y en a pas d'autre. Après tout le reste, ce sont des modèles, des manières d'exprimer ce que le Christ a vécu. Donc, effectivement, alors ne pas tomber dans ce piège. Benoît XVI disait que dans les réseaux sociaux, il y a du bon. Voilà. Eh ben, il faut profiter de ce bon. Moi, j'ai une chaîne un peu ridicule sur YouTube, avec mes 100 ou 200 suiveurs, c'est tout. Followers, c'est en anglais, donc suiveurs, c'est bien. Voilà. Je comme j'ai dit, je vais pas tomber dans le piège de l'image, c'est-à-dire me mettre sur un surf en maillot de bain pour parler de Jésus. Je reste comme je suis, voilà. Mais donc à partir de là, effectivement, il y a des choses bien dans les réseaux sociaux. Voilà. Donc ne pas tomber dans le piège d'être noyé par les choses mauvaises.
On sent qu'à travers ce livre, vous voulez aussi, d'une certaine façon, rendre hommage à tous ceux qui ont la force de vivre de ces vertus. Alors même qu'il y a des vents contraires, on vient de le dire. Que c'est pas si simple que ça, qu'il y a des gens formidables quoi dans ce monde qu'on ne sait peut-être pas voir, pas mettre en exergue,
dont on ne parle pas. Voilà. Mais le bien ne fait pas de bruit. Mais le bruit ne fait pas de bien. Donc à partir de là, le bien travaille, le bien construit la vie, construit, et le bien, il est constitué quoi de ce que le pape François rappelait dans son encyclique Fratelli Tutti, d'amitié et de fraternité.
Le livre s'intitule Voyage au pays des vertus. Il est signé Jean-Yves Ducournau. Vous êtes prêtre. Il est paru chez Salvatore. Et j'ai envie de vous dire que dans la deuxième partie de cette émission, nous allons aborder peut-être un formidable exemple de ce livre dont nous venons de parler, c'est-à-dire un ouvrage que vous avez commis sur Saint Vincent de Paul. Parce que j'aurais dû dire que vous êtes finalement alors peut-être pas dans la droite ligne, vous nous direz, mais en tout cas, vous êtes un enfant, un fils de Vincent de Paul, puisque vous faites partie de cette congrégation de la mission, qu'on appelle aussi les Lazaristes en France, et dont le fondateur est justement Saint Vincent de Paul. À tout de suite.
À tout de suite.
Merci Jean-Yves Ducournau de Merci nous rendre visite pour nous parler à la fois des vertus, puisque vous proposez dans votre dernier ouvrage paru chez Salvatore, Voyage au pays des vertus. Avec cette idée que face aux vices, face aux souffrances et aux difficultés de ce monde, peut-être peut-on se ressaisir à frais nouveaux. Des vertus théologales, alors pour le croyant, c'est évidemment des vertus qui habitent normalement sa démarche de foi, espérance et charité. Et puis des vertus dites cardinales, c'est-à-dire la prudence, la tempérance, la justice et la force. Et vous, comme bon aumônier militaire, expérience de combien, 30 ans ?
Oui, alors, une petite trentaine d'années, oui.
30 ans comme aumônier militaire, vous dites il y a aussi des vertus de l'uniforme.
Oui.
Et vous avez eu cette ouverture dans la première partie de cette émission en disant l'uniforme, c'est pas que l'uniforme militaire. Ce sont tous ces gens qui ont plein d'abnégation, le sens du service.
Oui, qui servent les autres.
Qui servent les autres.
Oui.
Et qu'on n'érige pas forcément en grande vertu, ni théologale, ni cardinale, mais qui sont des vertus, tout de même. Donc ce livre nous permet de prolonger sur un autre qu'on vous a commandé, j'oserais dire, sur Saint Vincent de Paul, parce qu'il est votre saint patron.
Oui.
Même si vous appelez Jean-Yves, votre saint patron, c'est Vincent, Monsieur Vincent.
Voilà. Monsieur Vincent, oui, qui me suit depuis l'âge de 6 ans, ou que je suis depuis l'âge de 6 ans, quand j'étais élève au berceau de Saint-Vincent de Paul, à l'époque où c'était, ça a changé de statut, c'était un orphelinat, et bon, parce que j'ai été recueilli par des familles, et donc j'ai été recueilli aussi par les Filles de la Charité et la Congrégation de la Mission, dès l'âge de 6 ans.
Et donc vous, vous êtes pétri de cette spiritualité, vous êtes prêtre de la mission, donc ça veut dire que vous êtes lazariste, vous faites partie de cette congrégation fondée il y a 400 ans.
C'est ça.
Par Saint Vincent de Paul.
Voilà, fondée en 1625, c'est pourquoi la congrégation m'a demandé de des biographies, il y en a plein, hein, mais de faire parler Saint Vincent de Paul d'une manière simple, abordable par tous. Bon, le livre est un peu épais parce que évidemment Saint Vincent de Paul a vécu 80 ans, donc 80 ans d'une histoire, d'une vie, mais je le mets en scène par l'intermédiaire d'un jeune frère que j'appelle frère Thomas, donc en référence à l'Évangile, qui est curieux, voilà, et qui veut dire didyme, donc jumeau. Donc en fait, à travers les questions du jeune Thomas, c'est les questions peut-être de chacun d'entre nous, mais vous, monsieur Vincent, vous, cher père, bon, j'en ai assez d'entendre ce qu'on dit de vous. Dites-moi, voilà, dites-moi quelle fut votre vie. Et là, nous sommes aux 4 derniers jours de la vie de saint Vincent, donc il prend le temps de raconter sa vie très riche, et des personnages importants viennent le voir, donc Mazarin, Anne d'Autriche, la duchesse d'Aiguillon qui est la nièce de Richelieu, et bien sûr, le plus important, un pauvre, hein, qui vient, que Vincent connaît, et qui est reçu par les confrères comme le Christ. Hein.
Donc Vincent de Paul est né en 1581, mm-hmm. et décédé en 1660.
Oui.
Il a vécu donc à l'époque de Louis XIV.
Richelieu. Il a connu Henri III, Henri IV, Louis XIII et le jeune Louis XIV, puisque il est mort en 1660.
Donc juste avant l'avènement de Louis XIV.
Oui. Et celui-ci était déjà là, parce que. Oui, parce que Vincent de Paul faisait partie de ce qu'on appelle le Conseil de conscience, qui était un peu le ministère des affaires religieuses de l'époque, où il y avait Mazarin, mais il y avait aussi Anne d'Autriche et le jeune Louis XIV. Et lorsque Vincent entrait dans la salle, il avait reçu ce titre Monsieur Vincent en hommage à toutes ses actions
charitables. C'est pour ça qu'on l'appelle Monsieur Vincent.
Oui.
C'est un titre.
C'est un titre reconnaissance de son bienfait pour l'État, le père des pauvres. Et Louis XIV et la reine Anne d'Autriche se levaient à l'arrivée de Saint Vincent, donc durant le Conseil de conscience.
Donc Monsieur Vincent était un homme rude, exigeant, audacieux, qui, au milieu des grands de ce monde, était capable d'y aller un peu fort, comme on dirait aujourd'hui. C'est-à-dire, même comme aumônier des galères, oui. Il ose des choses incroyables, il mobilise ce qu'il peut au service de la pauvreté, des pauvres. Qu'est-ce qu'il met en marche, Vincent de Paul? Qu'est-ce qui le pousse à faire tout ça? Parce que c'est un personnage incroyable.
Alors, ce qui le pousse à faire ça, je crois qu'il n'avait pas une foi aveugle. Donc à partir de là, il était rivé sur le Christ, puisque bon, la congrégation qu'il a fondée, a pour statut finalement suivre le Christ évangélisateur des pauvres. Donc suivre, déjà, on suit quelqu'un qui est un guide, un pasteur. On le suit parce qu'on a confiance en lui. On sait où il va nous mener, on sait qu'il va nous mener vers le bien, hein, et qu'il va nous donner les moyens de vivre ce bien. Suivre le Christ, on sait qui il est. Hein, le Christ, c'est le Fils de Dieu, c'est le prototype de l'humanité, dira saint Vincent, l'image parfaite de l'homme, mais il porte sur la croix les stigmates de la souffrance. Et donc, à partir de là, il est évangélisateur des pauvres. Il dit lui-même, il fait parler le Christ... qu'êtes-vous venu faire sur terre? Évangéliser les pauvres, mais encore évangéliser les pauvres. Voilà. Donc porter la bonne nouvelle. C'est-à-dire que le souci de Vincent, avant même que les pauvres puissent avoir de la soupe dans leur assiette, c'est la protection, le salut de leur âme. Il y avait cette crainte dans cette époque classique de la damnation des âmes. Et effectivement, dans les campagnes, l'Église était plus ou moins absente. Il y avait pourtant beaucoup de prêtres, mais ceux-ci étaient dans les grosses bourgades ou les villes, et donc n'allaient pas dans les campagnes. Souvenons-nous d'ailleurs de la phrase de Richelieu, quand il a été nommé, quand il était évêque de Luçon. Pourtant, il y a une belle cathédrale à Luçon, mais c'est le diocèse le plus crotté de France. Donc en fait, voilà, il fallait pas marcher dans la crotte. Bossuet, qui a été quand même un élève de Vincent de Paul, avant d'être précepteur du Grand Dauphin, il était évêque de Condom dans le Gers. Il a jamais mis les pieds parce que c'est vraiment loin de tout. Donc en fait, les campagnes étaient délaissées. Donc Vincent s'est penché sur les pauvres des campagnes, grâce aussi à sa châtelaine qui avait des domaines en Picardie, et donc il visitait les pauvres des campagnes avec la châtelaine, et il a été confronté à cette misère spirituelle, avant même d'être confronté à la misère, je dirais, matérielle. Mais les deux sont liés, hein, parce que dans les campagnes, bon, la moyenne d'âge était de 25 ans, donc on vivait pas longtemps. Hein. Bon, déjà la nourriture permettait de vivre.
Il a beaucoup aidé matériellement, autant qu'il a pu les personnes pauvres.
Oui.
Mais sa mission, celle qu'il habitait, c'était bien une mission d'évangélisation.
Il est prêtre, et à ce titre-là, c'est pour ça qu'il a fondé des congrégations de laïcs, hein, au départ, en 1617, il a fondé ce qu'on appelle les Dames de la Charité, justement, pour aller porter le soin spirituel aussi, mais le soin matériel, sanitaire, auprès des plus pauvres, mais toujours dans l'esprit de la prière. Il exigeait de ses dames de la cour, qu'il appelait ses sœurs, de prier avec les pauvres qu'elles servaient. Et ensuite, il leur demandait aussi d'aider financièrement ces pauvres. Donc, il les mettait un peu à l'épreuve.
Oui,
la bourse, il fallait donner. Et quand il était à Châtillon-sur-Chalaronne, en 1617, la deuxième partie de l'année, on lui fait savoir qu'il y a un pauvre qui est isolé, qui est malade, il va le voir en portant le Saint-Sacrement. C'est un prêtre. Il est capable de porter la soupe, mais sa mission première, c'est le salut des âmes. Et c'est pour ça qu'il fondera aussi avec Louise de Marillac les Filles de la Charité pour que l'évangélisation se fasse aussi par les pauvres. Donc les Dames de la Charité sont devenues les équipes Saint-Vincent aujourd'hui qui existent toujours, et les Filles de la Charité existent toujours, hein, depuis 1633, elles sont toujours là, hein, c'est évangéliser les pauvres par les pauvres finalement, par l'intermédiaire d'une jeune fille qui est venue frapper à la porte en disant j'ai envie de servir les pauvres, et là pour lui c'est un coup d'appel de la Providence, voilà, et finalement ouf, une lumière de la Providence, les pauvres vont être évangélisés par les pauvres.
On lui doit aussi la création de l'œuvre des Enfants Trouvés,
oui,
qui est devenue l'assistance publique aujourd'hui.
C'est ça, oui. Alors, là encore, ce n'est pas lui, c'est-à-dire voyant cette misère des enfants abandonnés sur les parvis des églises, il exige des âmes de la charité et des filles de la charité qu'elles s'occupent de ces enfants, parce qu'il existe une crèche, il existe des abris pour les enfants abandonnés. Mais ceux-ci, n'étaient pas aimés. Voilà. On leur donnait du sirop pour les endormir, pour éviter qu'ils crient, etc. Et parfois, on les vendait à des malfrats qui leur brisaient les jambes, etc. et les bras pour aller quêter. Donc, en fait, Vincent de Paul, pour lui, c'était inadmissible. Pour lui, c'est les enfants de Dieu, c'est l'incarnation. Donc l'amour, leur père, c'est Dieu, et il disait aux filles de la charité et aux dames de la charité, vous êtes leur mère. Voilà. Donc ne les abandonnez pas. Leur mère charnelle les a abandonnés, mais ne les abandonnez pas. Sinon, si vous les abandonnez, ça veut dire que Dieu les abandonne. Or, ce n'est pas du tout ça. Donc, vous avez à vous occuper de ces enfants et à les aimer. Et donc, il a monté des ateliers, quand les enfants grandissent, évidemment, pour que ces enfants puissent vivre de leur travail aussi. Hein. Il y a le phénomène de l'urgence, mais il y a le phénomène du suivi. Et Vincent de Paul, c'est pour ça que je dis qu'il est, surtout un génial organisateur, parce qu'il puisait les idées des uns et des autres, et il fédérait tout cela, et il a permis à beaucoup de structures d'exister. Il a fondé ces structures dont on a parlé, mais il a fondé plein de petites choses aussi avec d'autres personnes pour le bien des pauvres, parce que malheureusement la misère de tout temps et de tout siècle, elle est inventive à l'infini, et bien la charité doit l'être encore plus.
Merci beaucoup pour cet échange, Père Jean-Yves Ducournau. Je rappelle donc que est paru aux éditions Teki, Saint Vincent de Paul, Vivre pour le meilleur. Là, c'est une demande que votre congrégation vous a faite,
oui,
pour que vous parliez du saint fondateur de votre congrégation, puisque vous êtes prêtre de la mission, un lazariste, comme on dit, oui, aussi parfois. Et puis, finalement, très lié à cet ouvrage sur Vincent de Paul, ce dernier ouvrage que l'on vous doit, paru chez Salvator, Voyage au pays des vertus.
C'est cela.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Et à bientôt.
Plaisir.
Présence.
Présence à Castelsarrasin, 93.3.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Soixante mille fidèles angolais en communion avec le pape Sorimo. Une messe est en cours dans cette ville à l'est.